Voilà, c'est juste les portes noires, les portes techniques, tu vois.
Ouais,
les portes rouges.
Merci.
Wow. Premier étage, cabine de droite. De toute façon, t'as repéré pour moi.
Ouais, ouais, ouais.
Merci à toi.
Mais de rien.
Bonjour. Donc, vous avez à l'écran le film que vous allez voir. Nous avons tenu à Clap Action, l'association de cinéphiles du RSC du cinéma, à vouloir présenter dans le cadre des programmations du festival celui-là, c'est un film argentin. Juste en deux mots, le déroulé un petit peu de l'après-midi. Donc, on voit le film, il y a un débat d'animation qui va être intéressant, et à la sortie, Gladys va présenter sur une table le livre qu'elle a écrit, voilà, qui sera en vente et dédicacé par elle.
Du jeudi 10 au dimanche 13 novembre 2022 se tenait à Carmaux la 8e édition du Festival du cinéma social et ouvrier, et on y a laissé traîner notre micro pour en saisir l'ambiance et les humeurs de spectateurs et spectatrices. Troisième épisode où nous croisons Gladys Ambor, auteur du livre « Brisé de la fin de mon adolescence dans une cellule d'isolement », Gladys qui, elle aussi, va croiser son histoire particulière avec celle de Juan, dont l'enfance clandestine est racontée par Benjamin Avila dans le film du même nom.
Alors, je suis un ami de Gladys depuis très très longtemps. Elle vient demain samedi à l'école de Fontgrande à Saint-Benoît-de-Carmaux faire une conférence sur son livre. Son livre s'appelle Brisé de la fin de mon adolescence dans une cellule d'isolement. Car elle fut incarcérée dans une prison argentine presque 3 ans, du 27 mai 1975 au 18 janvier 1978. Pour avoir exprimé des positions politiques opposées au pouvoir. Elle fut protagoniste.
Je suis Gladys Ambor, d'origine argentine, et où je suis née il y a 64 ans, bientôt 65. Je viens ici dans le département du Tarn depuis Genève. J'habite actuellement en Suisse. Et la France, je la connais bien. La France a été mon deuxième pays, parce que je suis arrivée en 78, à l'âge de 19 ans, et en tant que réfugiée politique.
Voilà, bonjour à tous, et merci d'être ici, comme chaque année. Je vais animer le débat après le film, et je voudrais juste dire deux choses. Et on m'a demandé de choisir un film sur la période de la dictature en Argentine. Je n'avais pas vu le film avant de le choisir. C'est le titre et c'est la description du film qui m'ont attiré. Le garçon du film a 11 ans, lors dans l'histoire qu'il raconte. Et je crois qu'il y a eu une petite identification. Moi, pendant la dictature militaire ou même avant, j'avais 17 ans quand j'étais emprisonnée. J'avais 17 ans. Et je crois c'est ce qui a fait que mon choix s'est porté sur ce film-là. Et voilà, je vous souhaite un bon film. Et ensuite, je me ferai un plaisir d'animer, de débattre autour de ce qu'on aura vu.
Hoy, emprendemos el regreso a la Argentina. Entendemos que es el momento para continuar con nuestra lucha.
Vamos a recordar a los compañeros caídos en la lucha revolucionaria. Compañero Marcos.
Gracias. Compañero Pedro, entrego armas, cargador completo.
Chicos, hoy les quiero presentar a un nuevo compañerito que se llama Ernesto y vino a vivir a nuestro barrio.
¿Qué vivía yo? Qué bueno lo que haces.
Yo, María.
Sí, yo sé.
¿Cómo supiste que papá
Sino que, ¿qué te gusta?
Justicia, justicia popular.
¿Te gusta una compañera?
No, no.
Sentí que la mato, chinita de porquería.
¡Abuela!
Los chicos están perfectos, ya lo vi, están haciendo una vida normal.
¿A vos te parece normal que un chico tenga el nombre de no sé quién, el cumpleaños de no sé qué fecha?
Ustedes se tienen que ir, están en peligro, están matando gente. ¡Cristina!
¿Qué pasó?
Tenemos que irnos unos días de la casa, por seguridad.
¿Por qué? ¿Qué pasó?
María. ¡Contesta, Juan! ¿Con quién hablabas?
Con María, mi novia.
¿Y qué mierda quieren que haga acá?
Fala. No sé dónde van a ir. C'est très fort. Et elle, j'avais pas vu qu'il y avait les photos de la vraie famille de l'histoire. Le film est... Excusez-moi. Le film, ils disent au début, c'est basé sur une histoire réelle. Et ça nous montre une autre facette de la lutte révolutionnaire. Et ça nous montre le regard d'un enfant. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je préfère répondre aux questions que vous pourriez avoir. Je suis très émue, ça a été très fort pour moi. C'est l'histoire, c'est...
Mes années d'exil ont été très difficiles et j'ai toujours vécu comme actrice et observatrice. Je considérais que c'était... que ce que je vivais était incroyable. Et j'avais besoin d'expliquer, de trouver une explication pour moi-même de ce que j'avais vécu. Et c'est ce qui m'a amené, en tout premier, à faire de longues études. Et vers la fin, à entamer l'écriture d'une thèse de doctorat où j'ai analysé les effets de l'isolement sur l'individu. C'était l'isolement que j'avais moi-même subi à différentes occasions, mais en tout particulier la dernière période de 15 jours d'isolement où, comme j'ai dit pendant longtemps, dans cette cellule, quelque chose s'est brisé en moi, mais je n'arrivais pas à expliquer quoi. C'est pour ça que mon livre s'appelle, les sous-titres de mon livre, hein, de la fin de mon adolescence et dans une cellule d'isolement. Il m'a même fallu du temps pour assumer que j'étais encore une adolescente. Qu'à 19 ans, on n'est pas encore complètement sorti de l'adolescence. Et j'ai pu comprendre à quel point cet isolement m'a complètement déstructurée. C'est un isolement qui a brisé une personnalité en formation encore. Voilà. Et c'est grâce à cette thèse de doctorat que j'ai pu donner des concepts qui auraient pu être d'autres. Je ne dis pas que je donne l'explication absolue, mais au moins ça m'a servi à donner une explication qui m'a permis de saisir ce que j'avais vécu et aussi d'élaborer davantage. Et voilà, et c'est ce que j'essaie d'en rendre compte dans les livres. Ce n'est pas un simple récit de ce que j'ai vécu, mais ça essaie d'être une analyse. Une analyse qui pourrait d'ailleurs servir non pas seulement à mon expérience, mais à l'expérience de l'isolement en général, et pas seulement l'emprisonnement. Il y a beaucoup de situations dans la vie où on se trouve isolé, la migration en étant une. Et dans une famille, parfois, on peut être isolé à l'école. Quand on est un peu différent, on peut se sentir isolé. Voilà.
Je pense que vous avez compris qu'au début, il y a eu une confrontation entre les militants montoneros, qui étaient des militants de gauche. C'était la force révolutionnaire la plus importante en Argentine. Il s'était battu pendant 18 ans pour que le général Perón revienne en Argentine. Hein. Et quand le général Perón revient en Argentine, il le renie. Il réunit la partie gauche de son mouvement. Et là, il y a un grand conflit qui se crée en Argentine entre la gauche et la droite nationaliste. Et puis, il y a surtout les bandes paramilitaires issues de ces groupes nationalistes qui commencent à assassiner les gens de gauche. Les gens de gauche, de leur côté, font des attaques également. Et il y a un climat très tendu en Argentine. Et puis, cette famille, elle part en exil, elle part au Cuba. En 76, il y a les coups d'État. Peu de temps après, toute la gauche est exterminée. La guérilla en Argentine était assez rapidement exterminée. Mais en 79, la direction de Montoneros demande aux militants de retourner en Argentine pour ce qu'ils ont appelé la contre-offensive. Ils ont donné l'ordre qu'il fallait retourner éveiller la conscience des gens du peuple. Et c'est dans ce contexte-là que l'histoire a lieu. Et ce garçon doit suivre. Il subit l'histoire de ses parents. Et il devient un garçon très spécial, consécutivement à l'histoire de ses parents.
Pour écrire le livre, ça m'a pris 25 ans pour commencer à l'écrire. Oui. Déjà, ça m'a pris énormément longtemps pour retrouver une espèce d'équilibre. Et je peux affirmer que cette expérience, oui, m'a laissé des traces indélébiles que je peux contrôler actuellement, mais elles ne sont pas entièrement dépassées, non, 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 non. Et puis que l'expérience que j'ai eue a divisé ma vie en avant et après.
Est-ce que vous vous êtes servi aussi, dans le cadre de recherche, de témoignages d'autres personnes qui ont été isolées, ou c'est
non.
Vraiment votre...
C'est mon expérience, mon expérience, oui. Ce qui n'a pas empêché que pendant les années d'exil et par la suite, je n'ai pas partagé avec d'autres d'anciens camarades. Mais ce que j'ai expliqué dans mon livre, ça non, ça c'est quelque chose d'extrêmement personnel que je n'avais partagé avec personne.
Une fois le livre publié, qu'est-ce que vous ressentez une fois qu'il est sur papier, il est là, d'autres personnes s'en emparent? Qu'est-ce que c'est le sentiment qui...
Toujours énormément d'émotions, difficile de contrôler. Bah, oui, même aujourd'hui, c'est-à-dire c'est là où je me rends compte que les émotions sont encore dans mon ventre. Et, mais les livres, ça a aussi impliqué une revendication. C'est que la société me reconnaisse. J'ai cité un auteur allemand qui dit que lorsque la société vous nie, vous n'êtes personne. Et là, c'était le contraire. C'était que la société me reconnaisse, et ça m'a énormément revendiqué. Parce que j'ai toujours eu un peu l'ambition de pouvoir dire que j'étais en prison, comme d'autres disent, je fais l'école, normale supérieure. Voilà. Oui, mon ambition, c'était de pouvoir le dire avec le même naturel, chose que je n'ai jamais réussi à faire. Parce que, voilà. Mais bon.
Saben lo que hizo el famoso monoliso a la orilla de una zanja, caso vivo una naranja, qué coraje, qué valor, aunque se olvidó el cuchillo en el dulce de membrillo, la caso con tenedor. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tire con cuchillo, tírame con tenedor. A la hora de la cena, la naranja le dio pena. Fue tan buena Mona Lisa que de postre no la quiso. El valiente cazador ordenó a su comitiva que se la guardaran viva en el refrigerador. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. Mono liso en la cocina, con una paciencia china, la tomaba día a día, la naranja no aprendía. Mono liso con rigor, al fin la empujó un poquito y dio su primer pasito la naranja sin error. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. La naranja monolizó, la mostraba por el piso. Otra vez de visita, la llevaba en su jaulita. Pero un día entró un ladrón. ¿Se imagina lo que hizo? El valiente monolizo dijo, ¡ay, qué papelón! La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. A la corte del rey Bobo fue a quejarse por el robo. Mentiroso el rey promete que la tiene el gran bonete. Porque si comprendes, sí. De repente dice mono, allí está detrás del trono la naranja que perdí. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. Y la reina sin permiso del valiente monolizo escondió en una sopera la naranja paseandera. Monolizo la salvó, pero a fuerza de tapioca la naranja estaba loca y este cuento se acabó. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor.
Vous écoutez Un micro en balade lors de la 8e édition du Festival du cinéma social et ouvrier de Carmaux. Au Clap Ciné, c'est le 3e épisode de cette balade cinémato-radiophonique. On est avec Gladys Hambor, auteur du livre « Brisé, de la fin de mon adolescence dans une cellule d'isolement » à la sortie du film « Enfance clandestine » dont elle animait le débat d'après-film.
Ça n'a pas été une écriture d'entrée, non. Non. Et il a fallu surtout réduire. Surtout réduire. Je répète que cela vient d'une thèse de doctorat. D'abord, j'ai écrit la thèse, et la thèse, c'était des concepts théoriques. C'était que je ne parlais pas de mon expérience. Ce n'était pas l'anecdotique. Je prenais des éléments dont je parlais pour expliquer, pour soutenir la thèse que je défendais. Et c'est au moment d'écrire les livres où j'ai commencé à remplir avec la vraie histoire, les jours, les quotidiens. Et ça a été très fort, très fort. Oui, j'ai écrit et par la suite, il a fallu réduire.
Est-ce qu'à ce moment-là, la mémoire revient naturellement ou est-ce que c'est compliqué?
Et c'est compliqué. Et il paraît que j'ai une mémoire d'éléphant. Je ne sais pas pourquoi les éléphants, on attribue une telle mémoire aux éléphants. Mais oui, oui. Et ça, c'est les mêmes processus de l'écriture. Provoquait, oui, parfois il provoquait des moments d'une souffrance extrême dont je ne connaissais pas les causes. Jusqu'au moment où tout se remettait en place dans ma tête, voilà, des éléments qui avaient pu être épars précédemment. Et dans ce besoin d'écrire, les choses devenaient comme si j'ai faufilé ces éléments épars. Et là, il y avait une sensation de libération extraordinaire. Voilà.
Est-ce que ça vous a donné aussi envie d'écriture plus généraliste ?
Oui, oui, c'est une envie permanente que malheureusement je n'arrive pas à mener à bout. Et, bon, j'ai encore du temps, j'espère. J'aimerais parler de mon exil. Et il me semble évident, mais justement, il y a moins de choses concrètes, c'est plus dans les ressentis. Et, oui, j'ai un peu de mal. J'ai un peu de mal à parler. Ben, je dis toujours, l'exil a été une souffrance extrême. Mais quelle base donner à cela? Et je pense que je n'écrirai pas dans les témoignages, ça serait fiction. Parce que là, je me suis battue pour que chaque mot reflète la réalité comme je l'avais vécue, n'est-ce pas? Mais pour l'exil, non, je ne m'exposerai pas autant.
Vous l'avez écrit en langue française de suite?
En espagnol, et ensuite je l'ai traduit. Et ensuite, j'ai travaillé sur les deux langues, parce que parfois, voilà, des choses qui étaient plus simples de dire en français, alors je venais, je le disais, ça me rendait une idée pour l'espagnol, et réciproquement. Et puis, je me suis fait beaucoup aider par l'éditeur de langue française, il m'a bien aidé, j'ai beaucoup appris à côté de lui. Voilà.
Là, on sort d'une séance de cinéma. Vous êtes dans l'écrit. Est-ce que le cinéma pourrait rendre compte de votre histoire?
Oui, ça m'a été proposé d'ailleurs. C'était une de mes ambitions. Je pense qu'il y a énormément de matière pour écrire un scénario. Il n'y aurait pas beaucoup de monde parce que ça se passe fondamentalement dans une cellule. Mais oui, ça, on pourrait faire, à mon avis, un très beau film. J'ai reçu des promesses, mais qui sont restées au niveau des promesses. Voilà.
Est-ce que ça serait vous à l'écriture du scénario ou est-ce que ça serait une adaptation peut-être?
J'accepterais une adaptation, oui, bien entendu, j'aimerais donner mon point de vue. Mais oui. Ah oui, ça serait extraordinaire si quelqu'un venait un jour me proposer. Voilà, oui.
Et dernière question, comment il a été reçu ici ou ailleurs par rapport à des questions politiques qui se posent encore
Et le livre a été extrêmement bien reçu. Je ne sais pas si vous étiez là tout à l'heure quand j'ai dit que ce n'est pas un livre politiquement correct, parce que j'ai émis des critiques vis-à-vis du fonctionnement des groupes à l'intérieur de la prison. Chose que normalement on ne fait pas, parce que nous faisions tous partie de ceux qui étaient réprimés, c'est comme si on pouvait critiquer que les militaires. Non, moi je me suis permis de parler un peu de ce qui s'est passé à l'intérieur, et de ce point de vue là j'ai lu des commentaires assez blessants, et à chaque fois que j'ai eu l'occasion de lire ça, c'était des cas d'anciens camarades qui n'avaient pas lu les livres. Et je n'ai jamais reçu une critique de quelqu'un qui m'a dit « j'ai lu ton livre et j'ai des critiques pour ceci et pour cela ». Non, non. Il a été très bien reçu. En Argentine, il a été très bien reçu. Et y compris les commentaires qu'il différait. Et ça changeait un peu par rapport à une histoire, non pas qui se répète, mais des cadres qui sont à peu près la même chose, bon, la torture, la répression. Non, il a été bien reçu. Et dans d'autres pays, il a été... Oui. On m'a posé la question si en tant que femmes, nous étions traitées mieux ou moins bien que les hommes. Je me suis sentie un petit peu... Je n'ai pas eu la réponse. Par la suite, j'ai lu que si, je crois que les hommes étaient traités de façon plus dur, ce qui n'a pas empêché que nous, on a eu des camarades femmes qui se sont fait tuer au même titre que les hommes. On a été traités de façon très cruelle, puis on a risqué notre vie très souvent. Alors le fait que ce soit une femme qui a écrit, non, j'ai jamais été confrontée au sujet. Non. C'est ce qui interpelle dans mon livre, c'est l'image d'une adolescente. Même ça m'interpelle, moi, j'ai dit, oh là là, j'étais jeune, j'étais gamine, j'étais une gamine.
Voilà. Merci beaucoup.
Mais c'est moi, Wilfried.
C'est la fin de cette troisième émission autour de la 8e édition du Festival du cinéma social et ouvrier de Carmaux au Clap Ciné. Merci à toute l'équipe du Clap Ciné, merci à l'association Clap Action, merci aux spectateurs et aux spectatrices, merci à Gladys Ambor et Jacques Didier Jean. Retrouvez le livre de Gladys, Brisé, de la fin de mon adolescence dans une cellule d'isolement, aux éditions Labor et Fides. Merci pour l'habillage sonore à The Cinematic Orchestra, Gustavo Santaolalla, ainsi qu'à Tobias Lilja. Merci pour la pause musicale à Maria Elena Walsh pour son twist del mono liso. À suivre.
J'ai
Je voulais dire, je n'ai pas dit tout à l'heure avant le film à quel point je suis, j'éprouve de la gratitude vis-à-vis des organisateurs de ce festival, déjà d'avoir voulu projeter un film argentin, de m'avoir offert le privilège de le choisir et en plus d'animer le débat. Et à vous tous, merci beaucoup. Et voilà.